Bonjour à tous. Voilà, vous avez compris, je m'appelle André, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis un des membres de l'équipe pastorale de la Servette. Et si tu es là pour la première fois, ben, tu as entendu ce que Marcos a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un projet de croissance pour notre église. Et il y a justement eu ces quatre prédications qui étaient sur les axes prioritaires que nous voulons développer. Et nous terminons cette série aujourd'hui. Notre objectif, tu sais lequel c'est ? C'est de remplir ces locaux dans les prochains mois. Tout simplement de les remplir. Après de nombreux mois de discussions, de prières, de réflexions, nous sommes convaincus que nous devons travailler ces quatre points-là, dans un premier temps en tout cas. Le premier, Marcos nous a dit, c'est l'accueil. Nous voulons que chaque personne qui rentre dans cette église se sentent accueillies, se sentent aimées, qu'elles remarquent qu'elle est importante aux yeux de Dieu, mais qu'elle est aussi importante à nos yeux. Et pour cela, nous devons le vivre. Qu'elles sentent que le message que nous transmettons, ce n'est pas du pipeau, c'est vrai, c'est une réalité dans nos vies. Et nous voulons aussi que le message que nous transmettons le dimanche matin soit accessible, soit compréhensible, pour que chacun puisse comprendre ce qui se passe et ce qui est dit. Je ne suis pas sûr que ce matin, si je parlerais de transfiguration, tout le monde comprendrait ce que ça veut dire. Voilà, il faudra qu'on explique ces choses-là. Le deuxième, comme l'a dit aussi Marcos, c'est la vie intérieure, la piété. Nous voulons vivre, chacun d'entre nous, personnellement, une vie intime avec le Seigneur. C'est Marcos qui nous a parlé de cela il y a quelques semaines. D'ailleurs, toutes les prédications, tu peux les retrouver sur le site internet. Si tu veux savoir un peu plus ce qu'est la piété, va écouter cela. En fait, c'est avoir une vie complètement dépendante de Dieu et une recherche constante de sa connaissance. Un cœur à 100% pour Dieu qui se voit dans tous les aspects de ma vie. Avoir une vie de piété, ce n'est pas le dimanche matin. Si tu penses que tu t'en sors en venant le dimanche matin, oublie, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça. C'est tous les jours de notre vie. Le troisième, c'est l'édification. Et lorsqu'on parle d'édification, on pense souvent à la construction d'un édifice. Et en réalité, notre église est en construction. Alors oui, le bâtiment est fait, il est terminé. On l'a tous remarqué. Mais une église n'est pas un bâtiment, une église c'est des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est eux qui forment l'église, ce n'est pas le bâtiment. Alors qu'est-ce que nous voulons édifier? Qu'est-ce que nous voulons faire grandir? On veut s'encourager à connaître de mieux en mieux ce que le Seigneur veut pour nous, connaître de mieux en mieux la parole de Dieu. Essayez tous ensemble de nous exhorter, de nous édifier à ressembler de plus en plus à Christ. C'est pour cela qu'il y aura des groupes de maison qui vont démarrer au mois d'octobre, pour qu'on puisse les uns et les autres partager la parole ensemble. Et de nouveau, si tu veux avoir plus d'informations sur l'édification, ben va écouter la prédication du dimanche dernier. C'était Jonathan. Et maintenant, voilà, on arrive au quatrième et dernier point qui est la multiplication. C'est peut-être le point le plus simple. Quand on voit comme ça, multiplier, il n'y a pas besoin d'aller dans un dictionnaire pour voir ce que ça veut dire. Donc on veut multiplier pour que cette église soit pleine, non pas pour que la Servette devienne une grosse église, mais on veut être un instrument dans les mains de Dieu pour la propagation de l'évangile dans cette ville de Genève. On veut que cette église soit pleine de gens qui découvrent que Dieu a un plan pour leur vie. Et notre vision, elle est en bas. C'est un cœur pour l'évangile au cœur de Genève. Et de nouveau, voilà, l'église n'est pas un bâtiment. C'est ce groupe de personnes qui se réunit. Et les personnes qui se réunissent le matin, on aurait tendance à dire que ce sont quoi ? Des croyants ou des chrétiens ? Vous êtes assez d'accord avec ça ? Moi aussi. Mais je vous avais parlé de ça il y a à peu près plus d'une année. Sais-tu combien de fois le mot peut-être croyant, où le mot chrétien apparaît dans la Bible. Il apparaît d'ailleurs uniquement dans le Nouveau Testament. C'est entre 6 et 10 fois, ça dépend, il y a des théologiens qui se basent là-dessus, mais c'est en tout cas en principe moins que 10 fois. Ça apparaît uniquement dans le Nouveau Testament. Et c'est un peu normal que ça apparaisse que ces fois-là, parce qu'en fait Jésus n'a pas voulu créer des croyants ou des chrétiens et créer une nouvelle religion. Et d'ailleurs, le mot « chrétien » était un mot péjoratif que les Romains utilisaient pour se moquer de ceux qui suivaient Jésus. Hein? C'était les petits Christs. Donc ça servait à désigner quoi ? Les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus-Christ. Le mot « disciple », par contre, apparaît 281 fois dans le Nouveau Testament. Et un véritable chrétien, c'est quoi ? C'est un disciple de Jésus. Alors, quand on se définit comme chrétien aujourd'hui, on fait référence à nos racines judéo-chrétiennes, et puis en fait, voilà, je suis chrétien, je suis protestant, je suis évangélique, je suis catho, je suis n'importe. Et en fait, on peut avoir une vie n'importe comment si tu te définis comme chrétien. Ça va pas très loin, se définir comme chrétien. Par contre, si tu te définis comme disciple de Jésus, ça se corse. Ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Le mot « disciple » ne laisse pas de place à l'interprétation. Et un disciple, quel qu'il soit, hein, je ne parle pas forcément d'un disciple de Jésus, mais un disciple, qu'est-ce qu'il fait ? Il a un maître, il apprend avec le maître, il suit le maître, et il veut ressembler au maître et arriver à la même stature que le maître. C'est ça, un disciple. Et lorsqu'on est un disciple, on est focus sur l'objectif. Et l'objectif de devenir comme le maître devient le centre de notre vie. Et Jésus, après sa résurrection, et juste avant de retourner au ciel, il a laissé une mission universelle aux disciples, donc aux chrétiens, en tout cas aux vrais chrétiens. Et on peut lire ça dans Matthieu 28, 18 à 20. Il est écrit « Allez, donc faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On peut aussi retrouver cette mission dans Marc 16, 15. Il dit, puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Voilà, le message est terminé. En fait, il n'y aurait plus grand-chose à rajouter, hein. Je pense que c'est assez clair. Allez partout et annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ben, on y va, hein? On y va tous, c'est simple. Hein? Et puis tu me diras, oui, mais écoute André, tu sais, Jésus, il a demandé ça à des gars, ses disciples qui étaient exceptionnels. Des gars qu'il avait choisis, des gars qu'il avait suivis pendant quelques années, qui étaient courageux, qui étaient exemplaires. C'est clair et net que Jésus allait pas prendre des gens comme nous. Hein. Ça, c'est pas possible. En tout cas, des gens comme André, plein de défauts. Ben, souviens-toi, il y en a même un dans l'équipe qui l'a trahi pour de l'argent, dans ceux qui avaient été choisis. En réalité, ces gars-là étaient des gars normaux. Pas pire que moi, mais presque. C'était des gars plutôt peureux dans certaines situations. Ils avaient une condition profondément humaine, dans tout ce que cela veut dire. Des gens comme nous aujourd'hui, ils avaient leurs humeurs, leurs fatigues, leurs ras-le-bol, leurs manies, leurs agacements, leurs fiertés. Il y en avait même des fois qui jouaient au héros. Hein? Je pense qu'on retrouve tous ces gens-là dans notre Église. Ça leur arrivait aussi d'avoir peur, même d'avoir des grosses frousses, hein, tu te souviens, sur le lac. Paniquer, les gars, alors que le maître était dans le bateau, hein, à un moment donné. Hein. Quand Jésus leur demandait de prier, il leur arrivait même de quoi ? De dormir. Ça, c'était les disciples. Et la liste de défauts, elle n'est pas exhaustive. Il voulait par exemple aussi voir qui était le plus grand auprès de Jésus. Ah, c'est moi qui suis le meilleur, le plus grand, Jésus, regarde-moi. Enfin, tu te souviens quand Jésus a été arrêté dans le jardin? Hein, il y a la cohorte romaine qui débarque, c'était la nuit, sombre, avec les torches. On ne sait pas combien de personnes il y avait, peut-être des centaines, on n'est pas sûr qu'elle était complète hein, pour aller arrêter Jésus, parce qu'il n'a arrêté qu'un seul gars en fait. Hein. Il y a une petite réaction, il y en a un qui a essayé de couper une oreille pour sauver Jésus. Mais à un moment donné, Jésus s'est retrouvé tout seul. Ils sont tous partis. Ils ont tous fait comme moi, ils ont essayé de sauver leur peau. Peur. Est-ce qu'à ce moment-là, ils étaient prêts d'aller jusqu'au bout pour Jésus? Moi, j'ai un doute. Je ne suis pas sûr. Jésus se fait crucifier. Et les choses, elles n'ont pas fonctionné comme en fait les gars, ils ont espéré. Ils ont tout lâché pendant 3 ans. Ils l'ont suivi et le Messie meurt. Il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel drame. Du point de vue humain, c'était le fiasco, mais complet. Complet. C'était le fiasco sur tous leurs rêves, sur leurs projets, sur les choses dans lesquelles ils s'étaient projetés. Et tout ça, d'un moment d'un seul, devient obsolète. Jésus est mort. Et quand ça ne se passe pas dans notre vie comme on veut, ou de manière parfaite, ou de manière, acceptable, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on a tendance à baisser les bras, à laisser tomber, à abandonner. Et ça s'applique, en tout cas chez moi, à beaucoup de circonstances dans ma vie. Ça m'arrive souvent de vouloir lâcher le morceau, de laisser tomber. Et je ne te parle pas de, l'Église, hein. Je te parle de, ça peut être le travail, ça peut être des amitiés, ça peut être des projets. Mais, il y a un mais. Ce que Jésus leur avait dit, que peut-être ils avaient oublié, parce qu'ils se sont cachés après la crucifixion, ça s'est réalisé. Quelque part contre toute attente pour eux, ça se réalise. Les disciples voient Jésus ressuscité, même quand ils le voient, il y en a qui ont des doutes, mais ils le voient. Et là, tu te souviens de tous les défauts qu'ils ont eus, qu'ils avaient, là, ils sont radicalement, mais radicalement transformés. À ce moment-là, ils auraient aussi pu dire à Jésus, écoute Jésus, t'as vaincu la mort, t'as vaincu Satan. Vas-y, maintenant, établis ton règne. Chasse les Romains. Ferme un peu la bouche à ces docteurs de la loi. C'est toi qui règnes maintenant, c'est toi qui es le roi des rois. Mais non, Jésus, il leur donne une mission à laquelle ils vont obéir de manière incroyable. Allez, faire des disciples, allez et faites des disciples, allez montrer et témoigner ce qui s'est passé. Et ça, c'est une preuve en fait, et vous allez voir, c'est une preuve que tout ce que nous parlons ici, c'est la vérité et c'est une réalité. Ce ne sont pas des âneries. Ce sont, et on va voir, les traces historiques de la vie des disciples. Ok, c'est pas écrit dans la Bible, mais pendant toute l'histoire de l'Église, et notamment au début, il y a eu des historiens. Et même si certains détails ne sont pas toujours fiables, c'est quand même compliqué de se dire que tout est faux. Et c'est peu probable que ce soit des inventions. Et même si cette histoire de Jésus était une fraude, je ne vois pas comment on en parlerait encore aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi on en parlerait aujourd'hui si c'est un truc qui s'est passé il y a 2000 ans. Ça s'est passé en gros pendant 3 ans. On en parle encore aujourd'hui. Jésus n'est pas un illuminé qui a eu un court ministère de prédication, qui a raconté plein de choses qui ne se sont pas passées. Non, ce n'est pas ça. Ça s'est réalisé. Et une des preuves que tout ça est vrai, c'est le changement radical de vie des disciples. Le premier historien, c'est Eusèbe de Césarée. Il a sauvé de nombreux textes et manuscrits qui nous relatent, entre autres, comment c'est achever le parcours terrestre de ses disciples. Comment est-ce qu'ils ont terminé? Rappelle-toi comment ils étaient avant. Et même juste après la crucifixion, avant la résurrection, rappelle-toi comment ils étaient. Des gens découragés, apeurés, désespérés. Et je vais vous faire la liste. Pierre a évangélisé Rome. Il est mort crucifié la tête en bas. À sa demande, parce qu'il ne se sentait pas digne d'être crucifié à l'endroit comme Christ. André aussi est mort crucifié, après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Tu sais que les crucifiés ne mouraient pas immédiatement. Parfois, ils pouvaient rester plusieurs jours sur la croix. Il est dit que pendant 2 jours, il a continué, pendu sur la croix, à témoigner. Jacques, le fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Jean, il est mort de vieillesse. Pourtant, on l'avait ébouillanté à Rome. Mais il avait survécu. Condamné aux mines à Patmos, où il rédigea l'Apocalypse, il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié, la tête en bas, en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié et décapité. Thomas a évangélisé l'Inde et formé la première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il est mort transpercé par une lance. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie, il est mort tué par l'épée. Jacques, le fils d'Alphée, était le chef de l'église à Jérusalem. Il a été jeté du promontoire, ses 30 mètres. Paraît-il qu'il aurait survécu, mais qu'on l'aurait battu à mort avec des bâtons en bas. Et il a été achevé comme ça. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Il y en a un seul qui n'est pas mort de vieillesse, ou qui est mort de vieillesse. Aucun écrit, chez aucun historien, ne dit qu'aucun disciple, pas un seul disciple, a renié sa foi, pas un. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont été transformés. Ils avaient compris où se trouvait la chose la plus importante de leur vie. Dans quoi? Suivre les pas de Jésus et ses enseignements. Et surtout, répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'était tellement important pour eux qu'ils ont été jusqu'au bout. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Je ne sais pas si vous savez tout ce qu'est cette bonne nouvelle de Jésus. Et comme nous l'a rappelé Jonathan, dimanche dernier, c'est une bonne nouvelle qui commence par une mauvaise nouvelle. Marcos en avait parlé dans une présidence, et moi aussi dans une prédication l'année dernière. Paul Washer, un prédicateur bien connu, dit ceci: « Sais-tu quelle est la nouvelle la plus terrifiante que tu puisses donner à un homme, une femme, un enfant, à n'importe quel être humain? Est-ce que tu sais? Quelle est la chose la plus horrible que tu puisses dire à un être humain? C'est que Dieu est bon. C'est que Dieu est bon. Et le plus grand problème de l'homme, c'est que Dieu est bon, mais l'homme ne l'est pas. Un être parfait n'est pas compatible avec un être imparfait. Et malgré tous nos efforts, nous n'arriverons jamais à être parfaits comme Dieu. Et du coup, on a un problème. Dieu devient inaccessible. Et ce problème prend tout son sens et toute sa portée lorsqu'on lit le verset de Romains 3, 23 qui dit « tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont séparés de Dieu et n'ont pas accès à Dieu. On est tous différents ici. Il y a beaucoup de nationalités différentes, de races, de cultures, de conditions sociales. Même des gens qui sont dans des situations pas forcément régulières. Certains ont connu la guerre, d'autres la persécution ici. Peut-être tu ne le savais pas, mais il y en a. Mais on a tous un point commun. On a tous péché. Et on continue à pécher. Et souvent, on continue à pécher tous les jours. Et notre péché nous prive de Dieu. Mais comme Dieu est bon et qu'il nous aime, ce verset a une suite. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus s'est chargé du poids de nos péchés sur la croix pour nous rendre parfaits devant Dieu. C'est ça la merveilleuse nouvelle de l'Évangile. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par tout ce que tu essaieras de faire, par tout ce que tu essaieras de t'améliorer, tu n'arriveras jamais. Donc ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est de Éphésiens 2, 8 à 9. Et c'est ça que les disciples ont vu, c'est ça que les disciples ont expérimenté. Ils ont vu Jésus vaincre le péché sur la mort. Ils ont vu Jésus vaincre la mort, vaincre le péché sur la croix. Ils ont vu Jésus vaincre la mort sur la croix aussi. Et ils ont compris aussi qu'en fait eux-mêmes, ils ne pourraient rien faire, qu'ils ne seraient jamais assez parfaits, mais qu'avec Jésus, ils étaient réconciliés avec Dieu. Et ils ont reçu cette mission de transmettre le message et ils ont été à fond. Est-ce que c'est un message qui était dangereux? Franchement, moi je crois pas. C'est dire, oh, tu as une solution pour une vie éternelle, tu as une solution pour être réconcilié avec Dieu. Mais pourquoi depuis 2000 ans, ce message est-il combattu? Pourquoi? Pourquoi ils ont tous souffert? Sauf un jusqu'au martyr. Ils sont tous allés jusqu'au martyr. Pourquoi encore aujourd'hui on se moque de Christ? T'as une idée? La réponse est bien simple. Elle se trouve dans Éphésiens 6, 10 à 13. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » On est en guerre, les amis. On n'est pas en guerre contre des hommes. Et d'ailleurs, dans la suite de ces versets-là, il y a une armure du chrétien qui nous est décrite. Et cette armure ne nous parle pas de violence. Va la consulter, elle ne nous parle absolument pas de violence. Ce n'est pas contre les hommes, c'est contre Satan. C'est contre les esprits qui tournent autour de lui. C'est contre des démons. Ce texte nous montre, de nouveau, nous sommes en guerre. Et tout ceci est une guerre spirituelle. Et Satan, le prince de ce monde, père du mensonge, cherche à semer la confusion, la guerre, la discorde, le doute. Si toi-même tu as un doute sur ce que je te dis, regarde l'état du monde. J'ai noté quelques trucs, mais bon, c'est évidemment pas exhaustif. Réchauffement climatique, catastrophe naturelle, famine. Par exemple, au Yémen, les organisations non gouvernementales ont dit qu'elles n'arrivaient plus, qu'elles avaient perdu la guerre contre la famine. Puis après, j'ai été regardé, et en réalité, c'est plus de 10 millions d'enfants chaque année qui décèdent pour des problèmes liés à la malnutrition. C'est un enfant toutes les 5 secondes. 1500 enfants pendant la durée de ce culte. alors que la planète aurait de quoi les nourrir. C'est de la faute de Dieu. Guerre, terrorisme, corruption, drogue, prostitution, pornographie, alcoolisme, toutes sortes d'addictions. Prends le journal et tu verras aussi. Hein, tu prends le 20 minutes, hein, ce journal suisse que tu peux avoir en ligne. Et tu verras à peu près toute la perversité qui peut exister dans le monde. On t'explique même comment sexuellement ça peut être mieux avec un ou deux partenaires ou du même sexe, etc. C'est de la faute de Dieu. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Et si nous revenons au verset, oui, on est en guerre. On est en guerre. Satan se bat pour empêcher cette mission que Jésus nous a donnée. Et on la trouve également dans 1 Timothée 2:3. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qu'on fait, les amis, quand on sait qu'on a de la famille, qu'on a notre voisin, qu'on a notre facteur, ou qu'on a la boulangère, ou qu'on a les collègues de travail, et tous ceux qu'on aime et qu'on côtoie tous les jours? Et on n'a aucune idée s'ils sont sauvés ou pas. Est-ce qu'on se soucie de ça? Est-ce que c'est une préoccupation pour nous? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars en guerre contre celui qui les garde captifs? En plus, contrairement à la plupart des guerres, on sait déjà comment elle se termine, la guerre. Et en fait, la guerre est déjà perdue depuis que Jésus a vaincu la mort sur la croix et s'est chargé de tous les péchés. On a gagné. Si tu es du côté de Christ, tu as gagné. Mais Satan essaie de faire le plus de dégâts possible. Il essaie d'en faire autour de toi. Il essaie aussi de faire dans l'Église. Il essaie de faire parmi les chrétiens. Romains 8:37-39 est un verset incroyable et qui nous rappelle cette victoire. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ sur la croix. Ça ne peut pas être plus large comme définition. L'objectif là, c'était de dire, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous demande? T'as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Maintenant, va le transmettre aux autres. Ils en ont besoin. Quand Jésus a dit ça aux disciples, allez et faites des disciples, il n'a pas réservé ça à une catégorie de personnes. Imagine, on sait que Jésus est parmi nous ce matin, on l'a chanté tout à l'heure, et que son esprit est là. Mais imagine que ce n'est pas moi, c'est lui qui est là, et tu le vois de tes yeux. Et puis il dit, hey, je suis super content de vous voir ce matin ici tous réunis, maintenant je veux que vous alliez annoncer ma victoire. Je veux que vous fassiez des disciples. Par contre, j'ai pas besoin de tout le monde. Par exemple, j'ai pas besoin de ceux qui n'ont pas de formation biblique. Ceux-là, non. J'ai pas besoin de ceux qui font déjà le ménage dans l'église. Bon, là, ils seraient mal barrés parce que c'est à peu près toutes les familles qui font le ménage au moins une fois par semaine dans l'église. Mais j'ai pas besoin de ceux qui font déjà le ménage. Bon, il y a aussi les retraités. Bon, vous, c'est le temps de vous reposer. Il y a ceux qui prêchent. C'est déjà assez compliqué avec eux comme ça, donc on laisse ça aux autres. Ah, il y a aussi ceux qui sont à la sono là-bas. Non, pas besoin d'eux. Ou ceux qui, comme moi, ont un job et 3 gamins. C'est bon. Non, je sais que tu es déjà bien occupé. C'est pas pour toi. Ceux qui travaillent, ceux qui sont malades, les célibataires, etc., etc. J'ai pas vu de liste d'exclusion pour faire des disciples dans la Bible. Si tu en vois une, je te prie de lever la main et de le dire. Ok. On est tous concernés alors, on est d'accord. C'est cool. qu'est-ce qu'il nous faut pour faire des disciples ? Hein ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour aller vers les gens ? La première chose, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut avoir le fardeau des perdus et les aimer. Ça, c'est la première chose. De te rendre conscient que si quelqu'un meurt dans ton entourage et qu'il ne connaît pas Christ, qu'il est condamné pour l'éternité. Quand j'étais à la banque, j'ai une fois un client avec qui j'avais beaucoup de discussions. Il avait une leucémie. Il a une rémission. J'avais même été le voir à l'hôpital et je me suis dit, je vais lui parler. Il est mort. Je ne lui ai pas parlé. Et j'en avais des occasions. J'étais à sa cérémonie d'ensevelissement. Il était converti. J'ai été soulagé, mais je me suis senti mal. Il faut que les perdus soit une véritable préoccupation pour toi. Si ce n'est pas une préoccupation pour toi, c'est que tu n'aimes pas ton prochain. C'est que tu n'es pas un disciple. C'est que tu es simplement un chrétien du dimanche matin. Désolé d'être aussi direct. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Je me suis dit qu'on peut prendre en fait les quatre axes prioritaires qu'on a vus pour notre Église. L'accueil. Prends du temps pour ton prochain. Il y a l'accueil à l'Église. Mais il y a aussi l'accueil dans ta famille, chez toi, à la maison. Prends du temps d'accueillir des gens dans ton intimité, dans ton temps libre. Invite-les à boire un café, à manger, pour une balade, pour toute autre activité. Intéresse-toi à ceux qui t'entourent. Aime-les vraiment. Aime-les pas en prenant la Bible, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde, il ne va pas comprendre ce que tu racontes. » Commence par les aimer. Prends des nouvelles et fais tout ça de manière sincère. Pas en te disant, il faut absolument que je l'amène à l'église. Non, non. Crée des vrais liens, des amitiés. On a tous des voisins, on a tous de la famille, on a tous des gens qu'on côtoie tous les jours. Dis-moi pas que tu connais personne, ce n'est pas vrai. Prie pour ces personnes que tu auras à cœur. Prie, prie que Dieu t'inspire et te montre de quelle manière, Seigneur, tu me donneras la possibilité de témoigner. Prie pour que le Seigneur aussi parfois nous donne de la patience. Je partageais hier soir par message avec quelqu'un. Parfois on est pressé. Mais le Seigneur fait tout en son temps. Quand tu invites, quand tu témoignes, même de manière courte, tu n'es pas responsable des résultats. Ce que Jésus t'a dit, va et fais des disciples. Va et témoigne. Va et annonce la bonne nouvelle. Dès que tu l'as fait, ça ne t'appartient plus. Arrose ça par des prières. Le Seigneur met plein de possibilités devant nous. J'ai vu un ancien directeur RH d'une banque que quelqu'un dans l'église connaît. Jeudi dernier, j'ai mangé avec lui. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, il y a 5 ans, j'ai fait partie d'une restructuration dans la grande banque suisse. Et on discutait de ça. Et il me partageait combien c'était injuste, combien c'était aberrant ce qui s'était passé. Les centaines de personnes qui avaient dû être liquidées. J'en ai fait partie. Et il s'est occupé en partie de mon dossier. Et puis il m'a dit, est-ce que tu as encore de la rancœur et de la rancune ? J'ai dit, mais non, mais écoute, moi j'ai pas la prétention de savoir comment je gère ma vie et de dire que je contrôle tout. Moi je suis croyant, je crois en Dieu. J'ai remis ça dans les mains du Seigneur et voilà comment ça s'est passé. Voilà comment j'ai pu garder la paix. Voilà comment le Seigneur a répondu. Est-ce qu'il s'est moqué de moi ? Non, il m'a écouté. L'accueil, la vie intérieure et la piété, soient entièrement dépendants du Seigneur dans tous les aspects de ta vie. Mets le Seigneur comme priorité dans ton agenda. Dans ton couple, passe dans nos vies. Il ne veut pas la deuxième, la troisième ou la quatrième. Il ne veut pas non plus la place premier ex aequo
dans mon cas avec ma famille, il ne veut pas ça. Il veut être le premier. C'est lui la priorité dans ma vie. Ta foi, tu ne la vis pas non plus par procuration. C'est toi avec le Seigneur. Toi, tous ceux qui sommes là, toi avec le Seigneur. Édification, pour faire des disciples aussi. Mets comme priorité dans ta vie l'Église locale. On a tous besoin les uns des autres pour nous exhorter, pour grandir ensemble. Jonathan nous faisait la remarque dimanche dernier. Ce n'est pas uniquement ceux qui sont ici, ceux qui enseignent, ceux qui partagent les moments de réunion de prière ou de groupe de maison, qui doivent donner de l'enseignement et qui doivent exhorter. On s'exhorte tous les uns les autres. C'est des canaux qui vont dans tous les sens. Et on a tous besoin des uns des autres. Sinon, l'Église ne servirait à rien. Et Jésus donne de l'importance à l'Église. Il appelle son épouse. Il veut qu'elle soit belle. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'on a tous besoin des uns des autres. C'est comme l'histoire, quand un chrétien est tout seul, c'est comme cette page qui est là. Il t'arrive des problèmes dans ta vie, un divorce, un décès, un licenciement, et n'importe quoi. Ben voilà où est ta vie. C'est cette boule de papier qui sert à rien. C'est terminé. L'Église, ça peut être cette Bible qui est grande. Essaye de lui faire du mal. Tu pourras peut-être la mocher. Mais tu seras là au milieu. Tu seras encouragé. Tu seras exhorté. Des gens prieront pour toi. C'est à ça que sert l'Église. Tu devras faire des choix par rapport à l'Église locale. Je suis toujours assez étonné de voir des gens qui... j'en ai fait partie et des fois ça m'arrive. De voir qu'ils sont tellement fatigués pour venir à l'Église. C'est pas possible. C'est tellement compliqué quand il y a une activité ou quand il y a quelque chose d'important de venir. Il y a plein de choses qui passent avant. Et heureusement que Jésus, il n'était pas fatigué et puis il n'a pas trouvé compliqué d'aller sur la croix. Je sais que ma prédication depuis un moment, elle n'est pas très cool. Mais il faut qu'on se réveille, les amis. Il faut vraiment qu'on se réveille. On est en guerre et il y a tellement de gens spirituellement morts autour de nous. Je ne pense pas que c'est du légalisme. Je ne pense pas que ce que je raconte là, ce soit du fanatisme. Je pense qu'il est urgent que les gens rencontrent Christ et connaissent Christ. Et Dieu a voulu que ce soit nous qui parlions aux gens. Et c'est pour ça qu'on a ce projet de croissance. Et c'est pour ça qu'on veut de la multiplication. Si chacun d'entre nous laisse le Seigneur travailler dans nos vies et a des contacts avec une personne, ne serait-ce qu'une seule personne dans l'année, une seule personne serait venue à l'Église, je vous assure que dans une année, l'Église est pleine. Combien de disciples tu suis aujourd'hui ? De futurs disciples tu suis aujourd'hui ? Ce n'est pas grâce à toi. C'est parce que tu auras... dans ta vie intérieure et dans ta piété, laisser l'Esprit travailler en toi. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et ça aura un impact incroyable. Cette décision n'est pas anodine, vous savez, ici, qu'on prend dans l'Église. Satan est furieux contre ce projet, contre ce plan. Il est furieux qu'on se soit mis d'accord. Soyons attentifs à toute discorde. Redoublant d'amour les uns vers les autres. Ne le laissons pas agir. Il l'a déjà fait il y a une dizaine d'années dans cette église. Ne le laissons plus agir. Nous souhaitons tous un futur meilleur, que ce soit à titre individuel ou au niveau de l'église. Et notre problème, c'est que nous voulons que ça aille mieux, mais on n'est pas prêt à changer. On n'est pas prêt à abandonner notre passé. Et du coup, tes rêves de futur meilleur resteront des rêves. Et Jésus explique aussi de quelle manière on doit le suivre et de quelle manière on doit s'engager. Vous avez vu le dernier point, c'est multiplication. Prends la décision de faire des disciples. Et Jésus enseigne comment le suivre. Et un spécialiste de la loi s'approcha de lui et dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus lui répond, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Ce gars-là devait avoir un bon statut social. Un spécialiste de la loi, ce n'était pas n'importe qui. Peut-être qu'il se disait que c'était tendance d'aller vers Jésus, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui le suivait. Mais il lui a dit, hé, attention, ça ne va pas être simple, ta vie va changer, ça va bouger pour toi, ça va secouer. Hein. Tu vas devoir renoncer à tes petites habitudes, réfléchis avant de parler. T'es sûr que tu veux me suivre partout? T'es vraiment sûr? L'autre, juste après dans le texte, il dit, parmi les disciples, un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Si tu regardes de prime abord comme ça ce texte, il va peut-être te choquer. Mais ce que je peux te dire, c'est que le père de ce gars-là n'était pas mort. Il n'était pas mort. Ses parents étaient âgés. Et puis il y avait certainement la question d'héritage, c'était peut-être l'aîné. Puis il y avait la question d'héritage. Et il savait que s'il n'était pas là, le jour où ses parents décèdent, où les choses se passent, vu qu'ils étaient déjà âgés, ben, tout allait lui passer sous le nez. Et il dit, Jésus, écoute, j'ai encore deux, trois trucs à régler. Jésus, j'ai mon job là, j'ai une promotion. Jésus, là, je n'ai pas le temps parce que je dois plutôt me consacrer dans autre chose que pour ton royaume. Je viendrai après quand j'aurai le temps. Je viendrai quand j'aurai du fric. Je viendrai quand je serai marié. Je viendrai quand j'aurai terminé mes études. Je viendrai quand je serai à la retraite. Ça te parle ? Je me suis surpris avec ma femme il y a quelque temps à discuter de ça en me disant, ben voilà, je pourrais m'investir plus à l'église quand j'aurai peut-être 50, 55 ans. Voilà, je travaille dans une caisse de pension, donc j'ai une bonne caisse de pension. J'aurai certainement plus besoin de travailler à ce moment-là, ou peu, et à ce moment-là, je pourrais vraiment me consacrer encore plus au Seigneur. À ce moment-là, je mets quoi d'abord ? Je mets le Seigneur ? J'étais sincère hein, dans mon truc. Hein. Et puis en préparant ça, je me suis dit, mais t'es vraiment un imbécile, quoi. C'est quoi cette histoire ? Tu dois réfléchir quelle est la priorité dans ta vie. Notre vie, elle est faite de moments que nous vivons. Et chacun des moments qu'on a vécu, il est passé. C'est une accumulation de petits moments. On ne pourra plus les corriger, tous ceux qui sont vécus. On ne peut plus revivre. On ne peut plus revenir en arrière sur ces moments qui sont vécus. Je ne peux plus revenir en arrière sur ma prédication. Je te demande pardon s'il y a des choses qui te choquent. Je ne peux plus revenir sur ma nuit dernière. Elle est passée. Tout ça pour te dire une chose. Quel est le jour ou le moment le plus important de ton futur? C'est quand? Le jour et le moment le plus important de ton futur, c'est quand? C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est pas hier parce que tu peux plus revenir. C'est pas demain parce que tu sais pas ce qui va se passer demain. Et demain est déjà ton futur, donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Le jour le plus important dans ton futur. C'est aujourd'hui que tu peux prendre des décisions qui changeront ton futur. Dieu veut qu'on fasse des disciples. Il ne va pas nous obliger à le faire. Beaucoup de personnes s'identifient par leur passé, leurs problèmes, leurs difficultés. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est que... Et si je ne peux pas témoigner, et si j'ai tous ces blocages, c'est que... Bah dans mon enfance, j'ai vécu ceci, que mon mari m'a fait cela, que le divorce a causé cela, que la maladie a causé ceci, que le chômage, que les injustices, que peut-être... Ça va plus loin pour certains. Peut-être le viol que j'ai subi. Et on finit par s'identifier à nos problèmes, à ce qui fait notre moment présent. Tu sais ce que veut Jésus pour toi ? Malgré le fait qu'on soit complètement imparfait, qu'on soit comme ses disciples avant la résurrection, il nous met devant nous une page blanche, il nous met devant nous une nouvelle vie. Ton identité, ce ne sera plus tes problèmes, ce sera Christ. Ton présent sera Christ. ton futur sera Christ.
Tu feras partie intégrante de la famille de Christ. Et je vais proposer pour ceux qui le veulent, quand je le dirai, pas maintenant, de vous lever pour vous engager personnellement vers le Seigneur et envers nous tous dans ce projet d'église. Peut-être c'était tout nouveau pour toi ce matin et tu te dis, les gars, là, ouf. Pour toi ce matin, peut-être c'est de rencontrer Christ. Tu as entendu ce qui nous sépare de Dieu. Tu as entendu ce qui nous a rapprochés de lui. Tu pourras faire les deux, le reconnaître et dire, oui Jésus, je veux transmettre aux autres ce que tu me donnes aujourd'hui. Je vais nous laisser un moment de réflexion où on peut réfléchir où on en est par rapport à ça, où on en est par rapport à Christ, où on en est par rapport à nos engagements, où on en est dans notre vie de piété, où on en est dans notre accueil, où on en est dans l'édification dans l'Église, où on en est dans l'engagement que nous avons dans l'Église et où on en est dans la multiplication. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice immense sur la croix. C'était ça le prix à payer pour nous libérer du poids de nos fautes. C'est tellement bon de t'appartenir, de te sentir dans le quotidien de nos vies, de se sentir porté jour après jour par toi. Merci pour l'exemple de ces disciples, des gens tout à fait ordinaires qui sont devenus extraordinaires grâce à ton Saint-Esprit. Voilà Seigneur, on se remet à toi, à ta souveraineté pour nous diriger. Sans toi, nos projets, nos idées, nos actions seraient vides. Et on veut que tu sois au centre de chacune de nos réflexions. Je prie pour que ton esprit se déverse sur notre Église et que nous ayons la volonté, le courage et la joie d'obéir à ta mission qui est de faire des disciples. Nous voulons, Père, être des témoins afin que, autour de nous, des âmes parviennent à la connaissance de cette bonne nouvelle. Merci parce que tu es un Dieu patient envers nous malgré tous nos défauts. Et tu veux nous utiliser et nous montrer ce que tu désires pour chacune de nos vies et pour notre Église. On veut te louer et te remercier pour toutes tes bontés. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Je demande maintenant à ceux qui ont été touchés et qui souhaitent s'engager et obéir à ce commandement du Seigneur qui est d'aller et faire des disciples. De vous lever. L'Esprit du Seigneur est là, mes amis, il agit. Et je vous propose de rester debout, et ceux qui le souhaitent se lever pour chanter ce chant tel que je suis. On vient devant lui tel que nous sommes, et lui nous accepte tel quel. Je vous propose qu'on chante ce chant, et à la fin qu'on termine par deux ou trois personnes qui prient pour cet engagement et pour le futur de notre Église dans ce projet de multiplication.